France Musique.
Moi, je suis ici. Écoutez. Et bougez pas.
Allô, monsieur Isaac Stern. Une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil. Réalisation Christine Amado.
Bonjour à vous. Quatrième émission de notre série Allô, monsieur Isaac Stern, virtuose du violon et du téléphone. Nous en sommes à l'après-guerre. Nous avons fait connaissance avec l'enfant musicien né de la Little Europa. Nous l'avons suivi dans ses succès et ses échecs de jeunesse. L'avons vu faire front courageusement et seul face à ses failles techniques, se corriger lui-même, et gagner le cœur du public par sa générosité musicale et surtout sa chaleur humaine. Nous le savons patriote américain, il a donné des concerts sur le front. Et c'est déjà un jeune homme charmant, léger, batifolant entre ses amours. Il est aussi le bon copain qui boit sa bière au comptoir. Sans doute est-il aussi un tout petit peu trop sûr de lui. Ces années de 48 à 50 sont une période cruciale de sa vie. Elles vont faire de lui le Isaac Stern que nous adorons, le militant, le bouillonnant d'idées, l'ardent violoniste qui ne recule devant aucune audace. En 48, un événement fait scandale. L'éventuelle nomination de Wilhelm Furtwängler à la succession d'Arthur Rodzinski à la direction de l'orchestre de Chicago. Après avoir tourné cette histoire dans tous les sens, je décide de ne pas rentrer dans la polémique et de simplement vous présenter les diverses positions. Wilhelm Furtwängler est depuis les années 20 la figure de proue du génie allemand. Comme le souligne Milstein, il appartient à la droite nationaliste allemande, mais anti-nazi. Jamais il ne prendra sa carte du parti. Göring le distingue de titres honorifiques afin de l'impliquer, mais Furtwängler s'en dégage autant qu'il le peut et refuse de jouer tant que les salles de concert affichent le drapeau nazi ou la croix gammée. Il aide quelques musiciens à fuir et écrit nombre de lettres de recommandation à ceux qui émigrent. Beaucoup en ont témoigné. Pour se dispenser de faire le salut nazi, il garde toujours sa baguette dans la main droite à la fin d'un concert. À deux occasions, Hitler en profite pour lui serrer la main devant les photographes. Furtwängler, sans ciller, s'essuie ensuite les mains dans un mouchoir blanc très visible sur les images d'archives. Furtwängler dirige durant toute la guerre et participe malgré lui en 1942 aux festivités pour l'anniversaire d'Hitler et enregistre une célèbre 9e symphonie de Beethoven avec le Philharmonique de Berlin.
Der Großdeutsche Rundfunk überträgt am Vorabend des Geburtstages des Führers eine Feierstunde der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Es spricht Reichsleiter Reichsminister Dr. Goebbels. Das Berliner Philharmonische Orchester unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler spielt nach der Ansprache von Reichsminister Dr. Goebbels die 9. Sinfonie D-Moll mit Schlusschor an die Freude von Ludwig van Beethoven.
Pour Furtwängler, il s'agit de rappeler les fondements du texte de Schiller, la fraternité des peuples anéantie par l'apocalypse nazi. Le son est terrible, mais je crois qu'on entend clairement son intention. Écarté, Furtwängler s'est replié sur lui-même. La Gestapo a rassemblé un dossier sur lui et s'il ne s'était réfugié en Suisse en 1945, il n'aurait probablement pas survécu. Il est acquitté le 17 décembre 1946 par la commission de dénazification mais ne peut diriger la Philharmonie de Berlin avant mai 1947. Dans ses carnets de 1946, il se justifie. Le souci d'être abusivement utilisé par la propagande nazie a dû, pour moi, s'effacer devant une préoccupation plus grande, c'est-à-dire savoir conserver la musique allemande autant que possible dans sa permanence et continuer à faire de la musique avec des musiciens allemands pour des auditeurs allemands. C'est justement en 1947 que Furtwängler rencontre Yehudi Menuhin. Celui-ci fait ses tournées européennes pour l'armée des Alliés et à ce titre joue en 1946 et 1947 en Allemagne.
Furtwängler was a clean man and a wonderful. Now I'd like to forget everything else except talk about.
Furtwängler était un homme propre. Il était merveilleux. Et là, je voudrais oublier tout le reste pour ne parler que de sa façon extraordinaire de faire de la musique. Il attirait la musique, faire de la musique transcendait les réalités du moment. Et je me souviens quel point il a dû être profondément humilié, car son Allemagne n'avait rien à voir avec l'Allemagne nazie, avec cette bande de gangsters, cette mafia criminelle, un pays dirigé par des criminels.
Le ton monte quand Yehudi Menuhin donne ses premiers concerts avec Furtwängler et le Philharmonique de Berlin, notamment le concerto de Beethoven qui reste absolument un chef-d'œuvre.
Thank you.
En mai 1948, l'affaire de Chicago met le feu aux poudres. En août, Fort Wengler est contacté par les dirigeants de l'orchestre de Chicago afin qu'il dirige la saison à venir. En décembre, l'accord est à peine validé que le Times mentionne une pétition signée par de fameux musiciens qui s'opposent à cette nomination. Horowitz, Rubinstein, Lily Pons, Heifetz, Piatigorsky et beaucoup d'autres, dont Isaac Stern. Qu'en dit Isaac Stern ? Lorsqu'Hitler a pris le pouvoir en 1933, Furtwängler était le chef de l'orchestre philharmonique de Berlin. Il a commencé par faire ce qu'il pouvait pour aider et protéger les musiciens juifs de son orchestre, qui avaient l'interdiction de participer à quelque activité culturelle que ce soit. Mais lorsque les choses sont devenues vraiment difficiles, il a baissé les bras et a laissé les événements suivre leur cours. Il croyait en l'Allemagne. L'Allemagne était le véritable centre de sa vie. C'est toute la différence qui le sépare des frères Busch, Fritz, le chef d'orchestre, et Adolf, le violoniste, et d'autres musiciens non-juifs qui ont choisi pourtant de quitter l'Allemagne nazie. Furtwängler aurait été reçu avec les honneurs et acclamé n'importe où dans le monde, mais il a choisi de rester en Allemagne. Pour autant que je sache, il n'a jamais adhéré au parti nazi, mais pendant toute la guerre, il a dirigé de la musique dans l'Allemagne nazie. À ses côtés, Rubinstein, qui avait perdu une grande partie de sa famille dans l'Holocauste, déclare « Je refuse d'être associé avec quiconque sympathise avec Hitler, Göring et Goebbels. Si Furtwängler avait été un vrai démocrate, il aurait tourné le dos à l'Allemagne comme fit Thomas Mann. Furtwängler est resté parce qu'il pensait que l'Allemagne gagnerait la guerre et maintenant il est en quête de dollars et de prestige en Amérique. » Isaac n'est donc pas le plus virulent. En revanche, Milstein refuse de se joindre à la protestation. Furtwängler est un grand musicien et absolument pas un nazi. Et si la campagne de protestation réussit, le grand perdant sera l'orchestre de Chicago. La violence verbale est sans limite. Furtwängler, fou de rage, note dans ses carnets en 49 « Cette protestation est une hérésie dans l'histoire de la musique. Quelle est la raison de cette machination ? Il s'agit d'un boycott préparé dans un but précis et on se demande quelles sont les vraies raisons de cette manière d'agir, de cet ostracisme, de cette diffamation envers un artiste estimé. Serait-ce parce que je suis allemand ? Mais Nui n'est pas en reste à l'égard des signataires de la pétition. « Je n'ai jamais rencontré d'attitude plus insolente que celle de ces trois ou quatre meneurs qui déploient des efforts frénétiques pour exclure de leur terrain de prédilection un illustre collègue. Leur comportement ne m'inspire que du mépris. » Mais Isaac a une raison personnelle d'en vouloir à Furtwängler. Il y avait un chef d'orchestre très connu, Paul Kletzky, qui était un merveilleux musicien et avec lequel j'ai souvent joué à la Scala en Suisse, en Amérique et ailleurs. C'était un juif polonais qui avait des compétences musicales remarquables. Il possédait un charmant sens de l'humour typique de l'Europe centrale, un sourire forcé et d'énormes sourcils. L'un de ses sourcils partait vers le haut et l'autre vers le bas, ce qui donnait à son visage une expression unique. Protégé de Furtwängler, il avait habité chez lui et était considéré comme un membre de sa famille, comme un véritable fils. En 1933, Kletzky a fui l'Allemagne et s'est retrouvé en Italie sans travail, mourant pratiquement de faim et parvenant difficilement à survivre avec 3 ou 4 bols de spaghettis par semaine. Lorsqu'il a lu dans les journaux que Furtwängler allait diriger en Suisse au festival de Lucerne, il lui a écrit à son adresse suisse. En souvenir de l'intimité qui a été la nôtre à Berlin et des longues périodes où nous avons vécu ensemble, je vous demande amicalement de m'envoyer de l'aide ici en Italie. Je vous le demande parce que vous n'êtes pas en Allemagne, pour que vous puissiez le faire avec des fonds étrangers qui ne passeront pas nécessairement par une autorité allemande. Kletzky a longtemps attendu la réponse. Finalement, Furtwängler lui a écrit « Mon cher Paul, en tant que vieil ami, j'aimerais beaucoup vous aider. En tant qu'Allemand, je ne peux pas. » Je ne résiste pas à l'envie de vous raconter la suite de l'histoire. Kletzky est certes chef d'orchestre, mais aussi compositeur, et sa musique était connue avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Après l'épisode désastreux que nous a raconté Isaac, Kletzky fuit de Milan, où l'antisémitisme mussolinien le rattrape. Mais avant, il enterre sa musique dans le sous-sol de sa maison. Il se réfugie en URSS, puis réussit à s'évader en Suisse. En 1943, il apprend le meurtre de sa famille restée en Allemagne. Accablé, il s'arrête de composer et ne se consacre plus qu'à la direction d'orchestre. Tout le monde a même oublié qu'il a été compositeur. En 1965, la caisse contenant la musique de Kletzky est déterrée pendant des excavations à Milan. 30 ans se sont écoulés depuis qu'il l'avait cachée. Il n'a même pas le courage de l'ouvrir quand il la reçoit en Suisse. C'est sa veuve qui a publié son œuvre. Voilà, l'affaire Furtwängler marque le début d'une prise de conscience d'Isaac. Oui, un musicien doit prendre position, il n'a pas le choix. Nous verrons bientôt qu'Isaac va s'engager radicalement pour des causes qui lui tiennent à cœur. Quant à la conversation avec Yehudi Menuhin, elle va se pacifier, mais elle n'est pas terminée. La route des concerts tourne. Isaac vole de ville en ville, de continent en continent. Il poursuit ses tournées avec Zakine et tous deux élargissent leur répertoire. L'Europe le fait rêver. Il commence à y fidéliser son public. La vie semble magnifiquement prometteuse et redevient presque insouciante. Thank you.
Dans un petit amphithéâtre du musée de Tel Aviv, David Ben-Gourion, chef du conseil provisoire, proclame la naissance de l'État d'Israël.
C'était le 14 mai 48. Un an plus tard, Isaac effectue son premier voyage en Israël. Isaac ressent une forte émotion. Il dit « Ni par mon éducation, ni par mon mode de vie, je ne m'étais senti juif. » En septembre 49, c'est le choc et le début d'un engagement pour toujours.
Oh, c'était en 1949. Et je suis allé comme un juif qui voudrait voir qu'est-ce qu'il se passe, comment ils essayent de construire un pays où ils peuvent librement vivre dans leur pays. Et c'était un moment de construction. Tous les jeunes gens étaient actifs tout le temps de construire, d'être amis, de travailler ensemble.
Donne 7 concerts à Tel Aviv, un à Haïfa, un autre à Jérusalem. Il joue dans les hôpitaux, les cinémas et les théâtres, dans les kibboutz, et à chaque fois, il faut rajouter des sièges, des bancs. Il n'a jamais connu un public aussi mélomane. Il reste ébahi de voir des gens se priver de nourriture pour venir l'écouter. Certains viennent avec la partition et suivent pendant qu'il joue. Le portier de son hôtel lui demande « Dites-moi, pourquoi interprétez-vous la 5e sonate de Beethoven et non la Kreutzer ou la 10e ? Elles sont tellement meilleures !» Certains jours, il joue avec l'Orchestre Philharmonique de Palestine, qui va devenir d'Israël, 2 concertos et en répétition 2 autres, voire 3, évidemment sans aucun cachet.
Ce que j'ai reçu, parce que pour moi, le mot « juive » est devenu, après que j'étais en Israël, une description, pas un péjoratif. Et pour moi, c'était une immense découverte pour moi.
Vous êtes-vous senti israélien ?
Non, simplement voir que leur acceptation de tout était possible, de construire. Ils n'ont jamais eu la possibilité de construire quelque chose qui va rester à eux. C'était une gloire pour eux. Et il y avait une certaine camaraderie entre tous les jeunes gens et les hommes qui ont franchement établi l'État. La chose que j'ai trouvée quand je suis arrivé, la première fois, c'était presque un choc pour voir tout un pays où la musique était aussi importante que le pain.
Je crois qu'Isaac a écouté, discuté, fait des projets. Je l'imagine rêver à voix haute de ce qu'il peut apporter à ce pays. C'est là qu'il commence à dire de lui-même qu'il est un activiste. Nul doute qu'il a appelé son ami Lenny Bernstein pour en parler, lui qui s'est engagé auprès de l'orchestre depuis 1947 et l'a entraîné dans une tournée phénoménale en jouant les symphonies de Gustav Mahler. Choc encore. Quelque temps après, Isaac Stern se retrouve à Vienne. Dès l'instant où j'ai vu un uniforme de style germanique sur le dos des douaniers, j'ai senti mes cheveux se dresser sur ma tête. Entendre parler allemand partout m'a beaucoup perturbé. Il erre dans une ville encore en ruine. Alors qu'il vient d'assister à l'arrivée en Israël de juifs fous de joie, il découvre à Vienne les camps de ceux qui sont encore en attente de visa. Isaac écoute les récits d'horreur passés. Quelques jours juste avant son arrivée, un match de football a été organisé, autrichien contre juif. Quand ces derniers gagnent, on entend un supporter hurler qu'on les renvoie dans les chambres à gaz. Tout semble ahurissant à Isaac. Il joue en récital avec Zakin. Énorme succès, mais succès amer. Je me demandais si je ne transposais pas, dans le présent, trop d'imagination et de souvenirs du passé. J'étais peut-être venu à Vienne trop tôt, après mon expérience israélienne, qui avait eu tant d'influence sur ma prise de conscience juive. Peut-être avais-je besoin de prendre quelques distances que seul le temps m'apporterait. Déboussolé, perdu, « upset », comme on dit en anglais, un mot qui résonne comme « il n'y a pas de retour en arrière possible ». Or, nous arrivons à 1950, l'année du grand tournant dans sa vie. D'abord, il enregistre un de ses plus beaux disques. Il le dit lui-même. Et je vous mets au défi de ne pas avoir les poils qui se dressent sur vos bras. Il s'agit du concerto opus 64 de Mendelssohn avec l'orchestre de Philadelphia, dirigé par Eugène Ormandy. Une rencontre musicale sublime.
Avec Ormandy, c'était toujours un plaisir parce qu'il était violoniste lui-même. Il savait en avance ce qu'on voulait faire. Et ce n'était pas nécessaire pour nous discuter beaucoup et avoir des opinions différentes. On a commencé à jouer comme on joue la musique de chambre.
L'écoute qu'Ormandy accordait aux musiciens, qu'ils soient solistes ou dans les rangs de l'orchestre, s'apparentait pour Isaac à de l'élégance. Mais ce qu'Ormandy offre à Isaac, c'est l'occasion de faire une musique charnelle.
Ormandy était peut-être un des plus grands qui n'a pas accompagné, mais il a dirigé une base sur qui le soliste pour faire ce qu'il voulait faire. Et c'est une grande différence entre accompagner ou diriger la musique, faire une musique qu'on peut toucher, sur qui on peut construire votre édifice en sonorité.
Thank you.
Allô, monsieur Isaac Stern, Emmanuel Franc. France Musique, c'est l'été.
Maintenant, je voudrais consacrer du temps à une rencontre essentielle pour Isaac. Il s'agit de Pablo Casals. Nous commençons par le premier protagoniste de l'histoire, Sacha Schneider. Je vous ai parlé de lui dès la première émission en vous disant « Attention, c'est une rencontre pour la vie ». Cela se passait à San Francisco. Isaac avait été écouter le quatuor Budapest, dont Sacha est le deuxième violon. Depuis, le quatuor s'est fixé aux États-Unis, mais le violoniste vagabonde. Il joue en solo, en trio, parfois il dirige aussi. En 1948, Schneider se rend en France, à Prades, le petit village où s'est retiré Pablo Casals. Il souhaite étudier avec le violoncelliste. Casals est un mythe en 1950. Aujourd'hui, cela me fait l'effet d'un catapulteur de temps. Vous rendez-vous compte que le fameux trio Thibaud, Cortot, Casals date de 1905. Pablo Casals fait partie des étoiles de la musique, mais il est aussi un héros en Espagne. En 1920, il crée l'Orchestra Pau Casals à Barcelone, qu'il dirige, et fonde aussi l'Association ouvrière de concert, ouverte à tous les ouvriers gagnant moins de 500 pesetas par mois, interdite aux patrons et professions libérales. En 1936, le catalan républicain entre en résistance. En 1939, il fait partie du demi-million de réfugiés qui franchissent les Pyrénées. Casals s'installe à Prades, petit village au pied du Canigou, soit à quelques kilomètres de la frontière espagnole, dans une modeste maison. Le village comprend une rue principale, un café, une église. Tout autour, tout au loin, la montagne, et rien que la montagne. Casals est inflexible. Il ne joue plus en Allemagne depuis 1933. Refuse de revoir Cortot après la guerre, pour avoir été complaisant avec les occupants, et ne donne plus du tout de concerts, estimant que la politique internationale reste complice du totalitarisme tant que Franco est au pouvoir. Voilà l'ermite de 74 ans qui est venu voir Sacha Schneider. Il cherche à le convaincre de redonner des concerts.
Un jour se présente le musicien que vous connaissez, Schneider. Magnifique musicien. Et il a insisté pour que j'aille en Amérique. Mais les circonstances n'allaient pas avec ses pensées de gloire et argent. Et j'ai dit non. décidément non. Et alors l'homme, tellement gentil, il a dit, eh bien, et si nous venions ici pour faire de la musique avec vous? J'ai dit, ah, ça c'est autre chose. Alors ils sont venus tous de la nuit, des grands artistes, les meilleurs. Avec Serkin, tous étaient de premier ordre, Stern, Menuhin, vous voyez, enfin, tous. Et c'est comme ça que le Festival de Prague est né.
Ce premier festival a pour but de commémorer le bicentenaire de la mort de Bach. Mais comment Isaac s'est-il retrouvé mêlé à cette histoire? Devinez. J'étais chez moi lorsque Sacha Schneider m'a téléphoné pour me dire avec son fort accent russe « Il y aura un festival l'été prochain et tu dois venir ». J'étais ravie. Cet été-là, sa compagne s'appelle Jen Ikin. Tous les deux s'installent dans un petit hôtel près de Prades. Mais Isaac n'est pas vraiment d'humeur champêtre. En fait, il est même dans ses petits chaussons. Le lendemain, j'étais très excitée à l'idée de cette rencontre et assez nerveuse. Schneider est venu me chercher pour m'emmener à la modeste maison carrée en pierre de Casals. Nous avons monté un escalier pour nous rendre dans la pièce où il travaillait. Mon pouls galopait lorsque Sacha m'a présenté à ce génie souriant et rondelet qui était en train de fumer sa pipe. Il m'a accueilli avec la plus grande affabilité qu'on puisse imaginer. Casals était une légende et j'étais là, chez lui, prêt à faire de la musique avec lui. Sacha et moi avons pris nos violons. Pablo Casals s'est assis au piano pour nous accompagner. C'était un merveilleux pianiste. Nous nous sommes lancés dans le double concerto en ré mineur de Bach, joyeusement, avec émotion. Tout allait encore mieux que je ne l'avais espéré. D'emblée, il était évident que nous partagions la même conception de la musique. Le piano était un demi-ton trop bas et complètement désaccordé, mais Pablo Casals ne semblait pas du tout gêné, alors que cela me troublait un peu car j'ai l'oreille absolue. De temps à autre, il faisait une remarque qui donnait encore plus de subtilité ou de puissance à une phrase musicale. À la fin de la répétition, il était évident que nous avions de réelles affinités les uns avec les autres. Ce fut un moment très important dans ma vie. Car même si j'avais confiance en mon talent, en mon instinct et en ma vision, mon approche musicale était maintenant confirmée de façon fondamentale par cette rencontre avec l'âme de Pablo Casals. Pour le festival, Casals et Schneider ont invité les meilleurs interprètes. Les plus grands répondent comme Isaac, présent. Serkin, Dzigetti, Askill, Istomin et Orsovski. L'orchestre est cosmopolite, avec Marcel Tabuteau, français mais hautbois solo de l'orchestre de Philadelphie, Milton Katims, premier alto de l'orchestre de la NBC, le flûtiste John Woomer, et bref, les meilleurs. Le 2 juin 1950, les rues s'ornent de drapeaux, de banderoles et d'affiches, et le pavillon catalan flotte au pignon de la mairie. Et justement, un bataillon de Catalans a passé clandestinement la frontière. Des musiciens, des professeurs, des ouvriers, un évêque, un vieux berger aussi. Mes moutons m'ont accompagné à travers la montagne, affirme-t-il. Ce soir-là, il y a foule à Prague. À 8h30, la place du village est noire de monde. À 9h, il ne reste plus une chaise de libre dans l'église et l'on prévient le public que les applaudissements ne sont pas autorisés. Monseigneur Pinson, évêque de Saint-Flour, souhaite la bienvenue. Les lumières s'éteignent, la clochette de l'enfant de cœur retentit. Le maître s'avance seul. Il s'incline pour saluer. L'auditoire se lève religieusement. Casals s'assied, accorde l'instrument. L'illustre violoncelliste attaque le prélude de la suite en sol majeur de Bach. Pendant 17 jours, le rituel se répète. Isaac, un jour, on a joué le concerto brandebourgeois numéro 5 en ré majeur de Bach, celui dans lequel se trouve la fameuse cadence pour clavier. Je n'oublierai jamais cette répétition. Dans l'orchestre, nous étions tous assis et écoutions Rudolf Serkin. Sa cadence commence lentement, puis s'élève et traverse soudain le paysage musical à pas de géant, pour s'achever sur une éruption volcanique, un sommet jaillissant hors du piano et poursuivant son chemin en rugissant dans la coda, où nous avons fait notre entrée orchestrale pour les quelques mesures finales. le dernier accord, nous avons soudain bondi sur nos pieds pour crier comme des fous « Bravo, bravo !» Ce fut l'un des moments musicaux étonnants où l'interprète avait tiré d'une phrase tout ce qu'elle pouvait donner et même davantage. Prad insuffle un vent de magie grâce à Casals. Pour vous donner un aperçu, écoutons un souvenir d'Isaac qui date de 1952 certes, mais qui décrit à la fois l'ambiance au village et l'aura du maître.
Pablo Casals était un peu malade, on a travaillé le quintet de Brahms en sol majeur, et on a travaillé, retravaillé en attendant son retour. Et tout d'un coup, un soir, après dîner, on n'a rien à faire, pourquoi on ne va pas à l'école des femmes, c'était le studio pour les enregistrements, et on va enregistrer le quintet. Alors nos femmes ont arrangé tout et on a acheté du pain et de saucisson et de l'eau, de vin et tout ça. Et on est allé, on a commencé à faire la musique, jouer. Et il y avait un certain esprit, on ne peut pas l'expliquer, mais on a joué pour nous-mêmes avec une telle joie. Je me rappelle très bien Sacha Schneider à la fin du... Dans le dernier mouvement, elle a commencé à danser à la russe pour montrer comment on doit trouver l'esprit de la musique. Mais vous savez, j'ai mentionné le nom de Casals. Je dois dire que Casals était un énorme influence sur nous tous. Et expliquer comment, c'est difficile. Mais la seule chose qu'on pourrait dire, c'est un homme qui vous pourrait vous montrer un mur. Et derrière le mur, il y avait un jardin. Alors, il a ouvert la porte. Il montre toutes les fleurs, les plus grandes combinaisons des fleurs que vous pouvez vous imaginer, et encore 200 encore. Les odeurs et tout ça. Il a montré la possibilité des beautés dans la musique comme ça. Comment vous entrez vous-même dans ce jardin, c'est votre responsabilité. C'est lui qui a ouvert la porte et c'est vous qui va prendre la responsabilité vous-même.
Eugène Histomine.
Il y avait une électricité, une surexcitation spirituelle dès le commencement du premier festival en 50. D'ailleurs, ça n'était jamais répété à 7 degrés. C'était presque. Tout le monde était enivré complètement de cet amour et cet esprit. C'est presque comme drogué. Il n'y avait pas de drogue, il y avait simplement la personnalité de ce grand homme qu'on croyait déjà de l'autre côté, qu'on le croyait mort, n'est-ce pas? C'était une légende dont on l'a classé avec Paganini et Chopin.
J'ai déjà insisté sur l'importance de la musique de chambre dans le parcours d'Isaac. Je crois qu'à Prad, cette année 50, il a renoué avec ce plaisir extrême. Il a comme retrouvé ses racines. Isaac s'illustre, lui, avec la sonate BWV 1038 de Bach, ça va sans dire, avec le flûtiste John Woomer et Eugène Histomine.
Thank you.
Cet été magnifique à Prades, dans la constellation de Casals, Isaac noue un lien particulier avec ce merveilleux pianiste qu'est Eugène Istomine, qui aime d'ailleurs se moquer du violoniste.
Quand je l'ai rencontré la première fois, je l'ai connu, il était déjà célèbre comme un jeune violoniste. J'étais écolier encore. Il me semble qu'il avait 20 ans, j'avais 14 ou quelque chose comme ça, 5 ou 6 ans nous séparés. Il prétendait de commencer une carrière entourée par les dieux du violon, comme Heifetz, comme Milstein, comme Kreisler, comme le seul de sa génération était mondialement idole dans le monde, Yehudi Menuhin. Il y avait Bosch, il y avait Huberman, il y avait toute cette Sighetti, des géants du violon de tous les côtés. Francis Alors, ce petit rondouillard ici, avec le culot, de faire un assaut sur ces Mount Everest, c'est un Annapurna du violon. Alors, regardez. Il a monté au pic, au même niveau que il a fait de l'histoire. Peut-être c'est, à mon avis, c'est le dernier de cette envergure. Et je l'ai vu commencer et de grimper. Mm-hmm. Il est arrivé. Il a grimpé très vite aussi.
En 1950, Isaac a 30 ans. Il est aussi un jeune homme qui devient un homme et par là même un autre musicien. L'influence de Casals est évidemment fondamentale. Il l'a comparé à Isaïe. Il lui a donné confiance en le considérant comme un grand parmi les grands. Pour Sacha Schneider, Isaac a notamment pris conscience de la nécessité de varier à l'infini son vibrato, en amplitude et en vitesse, en fonction des exigences expressives. Nous savons déjà qu'Isaac fait respirer son archet comme aucun autre violoniste. Expirer, inspirer est égal à tirer, pousser. Son archet lui permet des articulations que les autres violonistes n'ont pas. Voilà pourquoi, quand vous écoutez ses disques, vous avez l'impression que son archet mesure 3 mètres.
On a oublié que l'archet donne un pouvoir incroyable, même à la liberté de la main gauche. On doit penser toujours que la sonorité, les lignes des phrases, l'expression dans la musique, l'expression que nous utilisons nous-mêmes quand nous parlons, c'est l'archet.
Et aussi le tempo, le rythme, c'est l'archet. Et enfin, c'est le rythme qui est la base de la musique. Et si on a un contrôle absolu de l'archet, on peut faire ce qu'on veut. Si on n'a pas, on est forcé à changer, même si on ne veut pas, le caractère des phrases, le caractère des passages, à cause des faiblesses de l'archet.
Isaac est en verve. Les tournées s'enchaînent dans le monde entier. Il a un succès fou avec le répertoire romantique, galvanisé par la confiance de Casals. Du coup, il travaille un petit peu moins jusqu'à ce que cela se fasse sentir dans ses doigts. Le 10 novembre 1950 à Carnegie Hall, en récital, deux doigts de la main gauche se bloquent. J'ai compris que je devais retourner à mon violon. Je ne pouvais pas m'en séparer, sinon je n'étais plus moi-même. Non, le jeune Isaac, un peu nonchalant, un peu négligent, ne peut plus s'en sortir avec une pirouette. Non, il n'est plus le même. D'ailleurs, le papillonneur est prêt à connaître le grand amour, Vera. C'est de Vilnius, en Lituanie, une ville magique où sont nés tant d'écrivains et de musiciens, ville raffinée et prospère, que vient la famille de Vera Lindenblit. Mais la révolution russe a poussé ses membres d'un point à un autre du monde. Moscou, Leipzig, Berlin, où naît Vera, puis Paris, en 1938, avec quelques valises et des pièces d'or cousues dans les doublures des manteaux. Le père de Vera est dénoncé. En juillet 1942, il est embarqué à bord d'un bus parisien lors de la rafle du Veldiv. Après quelques semaines à Drancy, il est expédié à Auschwitz. Vera travaille dans une fabrique de gants, puis l'étau du danger se resserre. Elle se cache avec sa mère dans un hôpital en région parisienne. Vera parvient à rejoindre une partie de sa famille à Stockholm. En Suède, elle apprend la langue et en 1947, elle émigre aux États-Unis où elle devient traductrice aux Nations Unies. Ardente sioniste, elle obtient son visa en 50. Elle vend tout ce qu'elle possède et part vivre en Israël. Elle arrive en mai 51 et devient traductrice pour le Congrès juif mondial. En juillet 51, Isaac passe 2 jours à Prades, puis s'envole pour Israël. À New York, Vera avait fait connaissance de Zakine. Ce cher Zakine, toujours la bonne étoile d'Isaac. Or, le duo donne un concert à l'Edison Theater à Jérusalem. Vera appelle Zakine pour avoir une place. Celui-ci et Isaac l'attendent à l'entrée des artistes au fond d'une ruelle pleine de poubelles. Isaac. Et là se tenait cette fille magnifique devant moi. Je l'ai fait entrer, lui ai trouvé une place et lui ai demandé ce qu'elle faisait après le concert. Elle a répondu « Eh bien, j'ai des amis ». Je lui ai répondu « Pourriez-vous leur dire que vous êtes invité à une soirée ?» Voilà qui passent la nuit à échanger sur leur passé et à se trouver bien des points communs. Vera suit Isaac durant cette tournée. Elle tente de le convaincre de rester en Israël. Il est vrai qu'Isaac s'implique de plus en plus dans la vie musicale israélienne. Une semaine avant la fin de son séjour, Isaac fait sa demande en mariage. Elle dit oui, il a 31 ans, elle 24. Mais comment faire? Elle est israélienne maintenant et lui américain. Ils font des pieds et des mains auprès des diplomates et du rabbinat pour obtenir des papiers, sans même publier leur ban. Exactement 17 jours après s'être rencontrés, ils se marient à Tel Aviv. Ils ont des points de divergence. Vera est profondément européenne et Isaac est profondément américain. Mais ils ont en commun une certitude. La religion apporte le malheur. Pour Vera, son parcours est assez éloquent. Pour Isaac, la vraie spiritualité est dans la musique. Ils partagent une conviction. Ils ont un devoir de mémoire face à l'antisémitisme. Vera a mis une condition au mariage. Qu'ils se rendent au moins une fois par an en Israël et que jamais ils ne jouent en Allemagne. Isaac aurait-il pris cette décision sans Vera? Pas si sûr. Il s'en explique. Je ne ressens aucun antagonisme ni aucun dédain envers l'Autriche et l'Allemagne contemporaine. En fait, je respecte, j'admire, j'envie leur besoin d'écouter et de vivre avec la grande musique. Mais jouer, entendre la langue, font soudain ressurgir des images enfouies dans mon subconscient. Les Allemands et les Autrichiens ont beaucoup moins perdu de ne pas m'entendre que je n'ai perdu de ne pas me produire devant les auditoires les plus instruits et les plus réceptifs sur le plan musical dans le monde entier. D'aucuns me diront qu'Isaac s'est rendu en Allemagne en 99. Oui, mais sans son violon. Il a juste donné des masterclass. C'est tout.
Je ne monte pas des grands discours sur ce sujet. Je ne suis pas violent. C'est très simple, je suis tranquille. Pour moi, jouer la musique pour un public, si on veut dire, c'est presque faire l'amour. Je peux faire l'amour avec des amis seulement. Et c'est difficile. Pour moi, la musique m'a donné un sens d'histoire. L'époque entre 1933 et 1945, c'est comme hier. C'était pas comme pour les jeunes, et je le comprends très bien, qu'ils savent rien de cette période. Et je voudrais pas qu'ils sachent trop. Parce que c'est pas nécessaire toujours vivre avec des misères et des douleurs. Mais quelqu'un doit se rappeler de temps en temps de cette période. C'est une chose. Deuxième, j'ai dit beaucoup de fois à mes jeunes collègues qu'ils doivent jouer là-bas. Ils jouent beaucoup là-bas. Et je suis convaincu que c'est bon pour eux. Alors, je parle seulement pour moi, toujours.
Isaac fait un miracle en 1951. Tout le monde avait en tête le fameux concerto de Sibelius par Heifetz avant-guerre. Heifetz avait enregistré ce concerto de Sibelius avec le Royal Philharmonic de Londres sous la direction de Sir Thomas Beecham. Isaac donne sa version exactement dans les mêmes conditions, même orchestre, même chef. Voilà où il en est de son fameux vibrato, de son sens du rythme et de sa maîtrise de la ligne directrice de l'œuvre. Beaucoup ont comparé les deux enregistrements. Il y avait de quoi trembler. Isaac s'est imposé. Thank you. Cela fait 4 émissions qu'Isaac nous dit que le talent ne suffit pas. Ces années d'après-guerre lui ont donné à la fois une identité d'homme et de musicien. Lui, qui a toujours voulu parler avec son violon, a maintenant quelque chose à nous dire du plus profond de lui-même. Tout est en place pour que sa passion pour la musique de chambre et ses plus belles interprétations de concertos s'épanouissent. Ce sera notre programme de notre prochaine émission. C'était Allô, Monsieur Isaac Stern, une émission d'Emmanuel Franc, préparée avec Françoise Monteil et réalisée par Christine Amado. Le mixage est signé Claire Levasseur. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster cette émission sur francemusique.fr. Bon après-midi à tous et je vous dis à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.